Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. J'espère que vous passez une bonne journée. On va tout faire pour y participer dans cette émission, ce petit rendez-vous sans prise de tête. On parle de ce qui se passe à côté de chez vous. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 mai 2021. Le temps est toujours mitigé dans le Beaujolais avec des espèces de giboulées de mars au mois de mai. On oscille entre averses et éclaircies et les températures attendues cet après-midi se situent autour de 15-16 degrés. Au programme, on va retrouver le coach, un surprenant personnage qui nous invite à réfléchir sur toutes sortes de sujets. On va retrouver notre libraire préféré Bertrand Lamure pour des conseils lecture. Tout ça, ce sera dans la seconde partie d'émission. Dans la première partie, on va la passer avec nos invités du jour. Aujourd'hui, Ensemble sur Calade reçoit Vivre Ensemble en Calade. On n'est pas à l'abri de s'en mêler les pinceaux, mais on va s'en sortir. Ensemble sur Calade, c'est une émission de radio que vous écoutez actuellement. Vivre Ensemble en Calade, c'est une association dont le principe est de mettre en relation des jeunes à la recherche d'un logement avec des seniors disposant d'une chambre et recherchant un peu de compagnie. L'habitat intergénérationnel, comment ça marche, c'est pour qui, à quoi ça sert, à qui il faut s'adresser, et bien à nos invités qui vont tout nous expliquer. Nous recevons Cécile Canet et Véronique Paulet de Vivre Ensemble en Calade. Avant de discuter tout ça avec eux, un peu de musique. On va parler générationnel, on va parler d'âge un tout petit peu, mais c'est un bon prétexte pour écouter le joli morceau d'Oxmo Puccino qui s'appelle « À ton âge ». Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15, merci d'être avec nous.
Et t'as quel âge ? Oui, ton âge. Parce que c'est important. Non, c'est de la merde.
Ce morceau s'écoute seul vers 2h du mat, à refaire sa life quand le miroir te mate. Va te dire pourquoi ça va si vite, c'est mieux quand c'est pacifique. Le 0 à 10 t'évite les blessures, le 10 à 20 de qui t'es pas sûr. Après t'as moins de 10 ans, trouver un salaire, faire des petits enfants. C'est où t'as foiré vers le 4e quart, commence à comprendre que ça fait tard. Problèmes d'image, le temps des visages.
Décalage, chaque chose en son temps. Je m'entends encore à ton âge. Décalage, chaque chose en son temps. Je m'entends encore à ton âge.
Devant un petit cercueil, il me dit qu'il faut un âge minimum pour mettre un linceul. On n'aura pas tous plein d'enfants. On n'est pas vieux avant 100 ans. Lorsqu'on refuse de faire son âge, on devient ce personnage qui refuse le temps qui passe dans une tristesse efficace. Les mots devaient se propager. Je suis né trop âgé.
Décalage, chaque chose en son temps. Je m'entends encore à ton âge. Décalage, chaque chose en son temps. Je m'entends encore à ton âge.
Tout se dit dans le langage, on ne fait jamais son âge. Bientôt tu vas être au collège, ailleurs c'est mitraillette. À ton âge, à ton âge, on veut pas que tu rentres. Au mien, on veut plus que je sorte. Soit t'es trop jeune, soit t'es trop vieux. Entre les deux, pareil que t'es con et c'est pas mieux. Tu manques de fond avec plein d'idées. Quand les moyens seront là, tu seras fatigué. Se régaler du vent sur la plage, ces choses viennent avec l'âge.
Décalage, chaque chose en son temps. Je m'entends encore à ton âge. Décalage,
choses en son temps. Je m'entends encore à ton âge.
C'était Oxmo Puccino sur Quelade avec le titre À ton âge.
Ensemble sur Quelade.
Allez, aujourd'hui en studio avec nous, Cécile Canet et Véronique Paulet pour nous parler de l'association Vivre Ensemble en Quelade. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu nous voir en studio pour nous parler de cette belle association Vivre Ensemble en Quelade. Avant de rentrer dans les détails, en deux mots, qu'est-ce que vous faites avec cette association?
Oui, alors tout d'abord, merci de nous recevoir sur votre antenne. Alors, la cohabitation intergénérationnelle est une formidable rencontre entre un senior qui a une chambre disponible, meublée, chez lui, et un jeune pro, étudiant, qui a besoin de se loger. Voilà, c'est un pari un peu humain de mettre ensemble deux générations qui vont cohabiter sous le même toit.
Et donc vous facilitez ça, vous faites en sorte que ce soit possible, vous mettez les gens en relation?
Oui, c'est ça. Alors nous rencontrons le senior à domicile quand il nous appelle pour prendre un petit peu des informations. Nous vérifions un petit peu quelle chambre il met à disposition, la décence de la chambre, quelles sont ses attentes, ses besoins. Et puis le jeune, on le reçoit en entretien, on éprouve aussi ses motivations à cohabiter avec un senior, parce qu'il faut savoir que c'est pas donné à tout le monde et que le jeune, il aura vraiment à cœur d'être très attentif au senior. Et voilà, ça demande de vraiment d'éprouver des motivations pour que tout se passe bien.
À la base de tout, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette association et de suivre ce principe d'habitat intergénérationnel? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette idée?
Alors c'est une asso qui a 4 ans que j'ai fondée avec Marie-Christine Lauriquet, qui est venue sur cette antenne il y a quelques temps avec moi. En fait, on est toutes les deux soignantes et on était toutes les deux confrontées à la solitude des personnes âgées. Et on était aussi maman, chacune, d'enfants étudiants nécessitant de rechercher des logements. Et du coup, on a réfléchi, on a travaillé, on s'est renseigné et on s'est lancé. On a fondé cette association il y a 4 ans.
Et du coup, c'est une espèce de cohabitation tout bénef, j'ai envie de dire, pour le senior et pour le jeune. Ça apporte quoi à l'un et à l'autre, grosso modo?
Alors c'est du gagnant-gagnant,
ouais.
les deux côtés. Hein, le senior, ça lui permet de rester chez lui tranquillement, en toute sécurité. Ça l'évite d'aller trop tôt en EHPAD, hein, évidemment. Ça lui permet d'avoir une présence rassurante le soir et la nuit, de bénéficier du dynamisme d'un jeune qui vient apporter sa joie de vivre, ses traditions un petit peu nouvelles, sa musique un peu punchy, son aide en informatique.
Ouais.
Voilà. Et le jeune, ça lui ouvre une générosité. Ça lui permet d'avoir un logement dans le calme, d'être parfois avec une grande chambre plutôt qu'une petite chambre en haut d'un immeuble. Voilà, tout est vraiment ça favorise vraiment un bien vivre ensemble.
Et je pense que il y a d'autres gagnants aussi, c'est les familles, que ce soit les familles des seniors ou les familles des jeunes. C'est rassurant de se dire que l'un comme l'autre n'est pas seul.
Oui, tout à fait. Alors, les enfants des seniors, ils sont souvent très rassurés, effectivement, de savoir qu'il y a quelqu'un chez eux. Même ça les soulage, parce qu'ils ont moins besoin d'aller voir leurs parents. Ils ont un petit coup de fil qui les rassure, etc. Et puis, quand on est parent et qu'on a son jeune qui est étudiant dans une ville qui est parfois loin de la maison, on est super rassuré de savoir que voilà, le jeune est chez quelqu'un, que c'est quelqu'un qui connaît la ville dans laquelle il habite, qui va peut-être aider le jeune et puis ne serait-ce que lui tenir compagnie plutôt qu'un jeune seul dans une...
Dans un appartement. Donc effectivement, c'est gagnant-gagnant. C'est quoi les profils des personnes qui font appel à vivre ensemble en Quelade? Peut-être du côté des seniors?
Alors les seniors, c'est tous âges, à partir de 60 ans. En fait, pour revenir un peu sur l'historique, la cohabitation existe depuis les années 90 en Espagne et plutôt 2004 en France, suite à la canicule de 2003. Donc tout profil de senior, ça peut être un senior encore actif, ça peut être un senior qui a 75 ans, 90, qui a déjà des aides à domicile. Et le jeune, il est lui, soit étudiant, jeune pro, alternant. Voilà, tout profil. On a même là une jeune de 49 ans, mais voilà, elle vient pour un stage de formation en éco-construction. Mmh. Et on a toutes nos associations, on a des petites exceptions d'âge. Ouais. La loi Elan précise quand même qu'un senior doit avoir plus de 60 ans et un jeune entre 18 et 30 ans.
D'accord.
Voilà.
Et vous parlez de... Ça a l'air d'être des périodes de courte durée, en fait, ces cohabitations ?
Tout à fait. Alors, c'est une durée librement définie entre les deux parties, ouais, en fonction surtout des besoins du jeune. S'il est là pour un BTS, il va venir de début septembre à fin juin pour sa première année. S'il est là pour un CDD, de six mois, voilà. C'est vraiment... Et le senior est au courant que cette durée, elle peut être... Elle est vraiment liée au jeune.
D'accord.
En tout cas, elle ne dépasse pas un an.
D'accord. C'est dans les règles
pour... C'est ça. S'il faut, il y a un renouvellement, un avenant au contrat. Mais ce n'est pas un bail de 3 ans comme dans le classique. Nous, on signe des contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire.
D'accord. C'est
le cadre de la loi Elan, contrat de cohabitation solidaire intergénérationnelle.
Du coup, comment ça marche concrètement, vous, votre rôle, c'est quoi les étapes pour qu'une cohabitation puisse exister? Par quoi on passe?
Alors nous, on rencontre les jeunes en entretien pendant au moins à peu près une heure. Comme ça, on peut vraiment éprouver leur motivation, voir ce qui leur donne envie de vivre avec un senior, et puis de mieux les connaître. Et puis les seniors, de l'autre côté, quand on va les rencontrer chez eux. En fait, on les visite chez eux. Comme ça, on peut voir le logement. Voir la décence du logement, bien sûr, et puis voir si ça peut correspondre à un jeune. Et puis, on essaye de faire matcher les deux. Donc, quand on a l'idée d'un binôme qui pourrait bien marcher, on présente le jeune, on l'amène chez le senior. Et puis là, on voit rapidement si ça peut marcher entre eux. Et puis après, on leur laisse le temps de réfléchir, on les laisse libres. Ils ont le droit de dire non aussi s'ils ne le sentent pas.
Ouais.
Et puis ensuite, quand tous les deux nous ont donné leur réponse positive, on signe un contrat de cohabitation intergénérationnelle.
Et vous créez vraiment les duos, vous allez diriger un jeune vers un senior en particulier. Qu'est-ce qui vous fait choisir un plutôt que d'autres?
Alors ça dépend pas mal des affinités.
Ouais.
Un jeune qui aime bien la musique, si on sait qu'un des seniors aime bien la musique, ça nous fait un petit peu tilt. Quelqu'un qui aime la culture, d'autres plutôt le jardin potager, voilà. Et puis en fonction aussi de ce qu'on ressent du jeune, est-ce qu'il sera peut-être plus à même d'être avec telle ou telle personne par rapport à tel ou tel besoin. Ouais. Alors c'est du cousu humain, et c'est aussi un parti pris, un parti sur l'humain en se disant, on va essayer de les présenter. On ne sait pas forcément si ça marchera, mais on le tente.
Ouais.
Et a priori, ça se passe quand même souvent très bien.
Pour que la cohabitation soit la plus agréable possible.
Harmonieuse possible, voilà. Et donc, ça mène sur le fait qu'on est vraiment là aussi dans le suivi du binôme, de la cohabitation. On prend des nouvelles, on les visite, on est médiateur si besoin. Et puis, on a vraiment à souhait que tout se passe bien, et on préfère la qualité à la quantité.
D'accord, ouais. C'est pas une fois que c'est fait que la cohabitation est mise en place, paf.
On se lave pas les mains et on s'en va pas, non.
Je crois qu'il existe deux types d'échanges possibles. Comment ça fonctionne ?
Alors tout à fait, il y a deux types de cohabitation. Alors il y a la cohabitation conviviale d'abord. En fait, c'est le jeune va payer une contrepartie financière modérée. Donc on sera toujours en dessous du prix d'un loyer selon la zone géographique. Souvent, ce sera pour un senior qui est encore autonome, qui a entre 60 et 75 ans. Souvent, il a encore ses activités, voilà. Il a seulement besoin de moments conviviaux, il n'a pas envie de vivre seul, il aimerait partager quelque chose. Donc là, le jeune n'a pas vraiment de service à rendre, mais c'est plus une présence bienveillante. Voilà. L'autre cohabitation, c'est la cohabitation solidaire. Donc là, c'est plus des seniors qui vont avoir 75 ans, voire 90 même parfois, et qui ont vraiment... ils ont même parfois déjà des aides à domicile, ils ont besoin d'être rassurés le soir, d'avoir quelqu'un la nuit, cette présence les rassure. Et puis nous, on note dans le contrat quand même des idées de services que le jeune pourrait lui apporter. Alors ce sera toujours des menus services.
Ouais.
ce sera jamais des soins, ce sera jamais le jardin toutes les semaines ou le ménage de tout l'appartement.
Ouais.
Par contre, le jeune, il entretient toujours la pièce qu'il occupe et puis les pièces communes, bien sûr, quand il les utilise. Mais voilà, les services qu'on peut prévoir pour que le jeune aide le senior, ça peut être de fermer les volets, de descendre la poubelle, un petit dépannage informatique
de temps en temps,
voilà.
D'être là pour donner un coup de main quand il y a besoin.
Voilà.
Et que, effectivement.
Et dans ces cas-là, le jeune, il paye juste des charges. Donc, c'est environ 50 euros. Donc, c'est quand même très intéressant aussi.
D'accord. Donc, c'est les deux fonctionnements qui existent un peu avec Vivre Ensemble en Calade. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a plus de seniors qui sont prêts à accueillir des jeunes? Ou est-ce qu'il y a plus de jeunes qui cherchent des logements? Voilà, à peu près.
Alors, c'est très variable. Quand on a monté l'association, on s'est dit, tiens, on aura peut-être d'abord des jeunes. Et en fait, non. On a eu d'abord un senior, et grâce à votre radio d'ailleurs, puisque ce senior nous a entendu parler sur Radio Calade, et du coup s'est dit, tiens, pourquoi pas. Et depuis 4 ans, il accueille des jeunes.
Ouais.
Il en est à son 8e, donc pour nous, c'est un beau cadeau. Donc c'est par période. Actuellement, on a pas mal de seniors,
ouais.
Et c'est bien, parce qu'en prévision de l'arrivée des jeunes en septembre, et notamment les résultats Parcoursup qui vont avoir lieu le 27 mai, bah, si on a un pool de seniors qui est là, prêt à accueillir, on saura vers qui orienter nos jeunes en fonction des profils, évidemment, qu'on aura découvert ensemble.
Ouais, donc il y a des saisons comme ça où il y a de plus en moins.
C'est ça.
Plus ou moins de demandes.
Étonnamment, là, entre mars et mai, on a deux jeunes qui sont venus et qui pour des courtes durées, voilà,
pour des stages
et pas forcément pour une année étudiante.
Je crois qu'il y a une expérimentation en ce moment qui existe pour aider aussi à cette cohabitation.
Oui, tout à fait. Alors en ce moment, il y a la CARSAT et la CAF qui s'engagent justement pour aider et les seniors et les jeunes. Donc la CARSAT, bah, c'est la caisse retraite du régime général, je le rappelle. Elle mène cette expérimentation pour aider financièrement les seniors à rentrer dans la cohabitation. Donc nous, il faut savoir que notre association, on demande une cotisation annuelle de 250 euros. D'un côté pour le senior et aussi de l'autre côté pour le jeune. Et du coup, grâce à cette aide de la CARSAT et de la CAF, il y a 3/4 des frais qui sont pris en charge. Donc ça ne revient plus qu'à 70 euros annuels.
D'accord. Et ce soutien de ces deux organismes, ça veut dire quoi? C'est pour que vous puissiez en faire de plus en plus?
Alors c'est une super reconnaissance, je dirais, parce que les institutions se rendent compte que la cohabitation, elle a vraiment de l'avenir, qu'elle permet à deux générations de se rencontrer, de vivre sous le même toit, de lutter contre l'isolement, de créer du lien social, de partager des moments conviviaux et d'aider les jeunes à se loger. Et on sait actuellement combien les jeunes souffrent de cette situation, et les seniors aussi. Donc pour nous, c'est vraiment une reconnaissance de voir que des institutions se lancent dans cette aide et quelque part favorise cette rentrée-là.
Il y a un rendez-vous qui est donné également, c'est la semaine du 7 au 11 juin.
Oui, tout à fait. Alors, c'est la semaine nationale de la cohabitation intergénérationnelle qui est portée par le réseau Cohabilis auquel nous appartenons, qui est un réseau qui fédère 40 associations. Et donc, cette semaine, elle est là pour qu'on sorte un peu de nos murs, et notamment le fait d'être là aujourd'hui, ça nous permet de vous en parler, de permettre de connaître un peu mieux l'association. On va aller tracter sur le marché, on va faire nos portes ouvertes de notre bureau les mardis et jeudis de 9h à 12h. Chaque association organise un peu des événements particuliers. Il y aura un webinaire au niveau du réseau. Une association de Lyon fait jouer une pièce de théâtre que nous avions fait venir en octobre 2019 ici à l'auditorium, qui s'appelle Quai numéro 19. Voilà, donc vous qui nous écoutez, si vraiment vous êtes touchés par cette cohabitation et que vous avez chez vous, dans votre immeuble, dans votre entourage, une personne âgée qui est seule, mais qui a une chambre disponible et qui se confie souvent à vous en disant « moi, je me sens seule », n'hésitez pas à lui parler de nous. Vivre Ensemble en Calade est une solution, une possibilité ouverte à tous. Il suffit qu'on se rencontre et qu'on discute. Rien n'est forcé, rien n'est automatique, mais le fait de discuter, d'en parler, ça peut faire cheminer. Au bout de 3-4 fois, la personne se dira « ah bah oui, pourquoi pas, moi j'aimerais bien accueillir un jeune ». Et là, on fait des heureux.
Si on veut en savoir un petit peu plus avant la semaine du 7 au 11 juin, on peut aussi aller faire un tour sur votre site internet.
Tout à fait.
VEEC.fr, tout simplement, pour vivre ensemble en Calade. Et puis, il y a une adresse mail, info@veec.fr, pour vous poser des questions et se renseigner.
Tout à fait. Et puis, on est toujours là pour répondre au téléphone, ou Cécile ou moi. Sans souci, on vous écoutera avec intérêt et attention.
On peut le donner, le numéro de téléphone ?
Tout à fait.
C'est le 07 69 85 99 96. Voilà, comme ça on sait tout sur vivre ensemble en Calade. Merci beaucoup à toutes les deux, Cécile Canet et Véronique Paulet, d'être venues en studio aujourd'hui.
Merci à vous et bonne fin de journée.
Bonne fin de journée, au revoir.
Ensemble sur Calade.
Allez, tout de suite, on écoute Leïla Huissou avec un bel hommage au Seigneur. Ça s'appelle La Vieille.
J'ai pas besoin de vous pour ranger mes vêtements. Partez, vous m'encombrez, dit la vieille en sautant. Pieds joints sur sa valise, on aurait dit Popeye. Elle avait encore la souplesse des abeilles. Étant pas décidée vers la gare Saint-Lazare, tandis qu'on faisait semblant de pleurer son départ, elle s'en allait gaiement, son bagage à la main, avec deux ou trois pauses pour se tenir les reins. J'ai pas besoin de vous, dit-elle au contrôleur, pour porter ma valise, j'en ai pour un quart d'heure. L'hospice est en banlieue, on dit que c'est un château où les vieux jouent au Scrabble et aux petits chevaux. Moi, j'ai horreur de ça, comprenez-vous, monsieur? Je n'aime que les westerns avec plein de coups de feu. J'ai vu 14 fois l'infernal chevaucher. Je vous le raconterai bien, mais nous sommes arrivés. J'ai pas besoin de vous, dit-elle à l'infirmière, pour déplier mes draps, laissez-moi, j'ai affaire. Alors de sa valise, à l'abri des regards, elle sortit 20 bouteilles d'un célèbre pinard. Descendit au salon où les vieux et les vieilles jouaient aux petits chevaux en se grattant l'oreille. Bonsoir messieurs, mesdames, je m'appelle Fanchon. L'un d'entre vous n'aurait-il pas un tire-bouchon? J'ai pas besoin de vous, dit-elle au médecin, en élevant vers lui son troisième verre de vin. Tandis que les vieillards autour de la pendule chantaient à quatre voix la grosse bite à tutule. Et l'on vit ce spectacle ô combien ravissant, de 80 gâteux quittant l'établissement afin de ratisser les hospices du pays, arrachant à la mort des moribonds surpris. J'ai pas besoin de vous, dit-elle au curé, qui au chevet d'un vieux s'esquintait à prier. Vous voyez bien que ce cadavre n'est pas mort, s'il ne respire plus. Par contre, il bande encore. Un petit coup de branlette le remettra sur patte, comme un coup de manivelle sur une vieille juve à quatre. Le prêtre révulsé tombait les bras en croix. Il respirait encore, mais il ne pendait pas. J'ai pas besoin de vous claironner, tous les vieux, chaque fois qu'un député voulait s'occuper d'eux, car vous n'avez pas su vous occuper de nous, du temps où nous avions encore confiance en vous. Tous les moyens sont bons pour gagner la coupole. Si les morpions votaient, vous auriez la vérole. En tant qu'improductif, nous ne produirons pas un imbécile de plus à la tête de l'État. J'ai pas besoin de vous, dit-elle au nécrophage qui la poussait dans le ghetto du troisième âge. Saloperie technocrate qui inventa cette formule. Du haut de mon mépris, saloperie, je t'encule. C'est la première fois que je dis un gros mot, et tout en se servant un petit verre de Porto, elle fit un bras d'honneur, on aurait dit Popeye. Elle avait encore la souplesse des abeilles.
C'était La Veille, un morceau chanté en live par Leila Huissou.
Ensemble sur Calade.
Le coach.
Et oui, il est l'heure de retrouver le coach. Bonjour coach.
Salut Gab.
Salut, vous allez bien ?
Ça va bien et toi ?
Ça va, ça roule. Alors de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que j'aime bien. Parce qu'un truc que j'aime bien, moi, dans la vie, ce sont les débats.
Ah.
C'est-à-dire discuter, débattre, échanger, tout ça. Moi, c'est un truc que j'aime bien. Mmh. Alors, parce que d'abord, un débat, c'est se confronter à d'autres opinions que les nôtres. Hein, ça demande de structurer notre pensée et ça demande aussi de savoir l'exposer. Ce n'est pas un exercice facile car les pièges sont nombreux. D'autant que depuis quelque temps, on voit puver des pseudo-débats sur les chaînes d'infos en continu. Je dis pseudo-débats car on se retrouve souvent face à deux configurations. Soit vous avez autour de la table que des personnes qui sont de la même opinion à quelques petites nuances près. Hein, ça ouais. se joue entre gris-vert sapin et gris-vert feuillu.
Ouais.
Soit vous avez des personnes avec des idées tellement opposées que ça tourne à la foire d'empoigne avec des cris et des invectives. Mmh. C'est d'ailleurs devenu la norme recherchée car un clash qui buzz rapporte plus de vues sur les réseaux sociaux et plus de visibilité. Le but devenant qu'on en parle indépendamment du sujet dont on parle.
Ouais.
Tu me suis, Gamin ?
Ouais.
Alors je serais reconnaissant de ne pas me couper la parole, Gamin, quand je parle.
Pardon, toutes mes excuses.
T'inquiète pas, laisse-moi gérer, on va faire un petit buzz pour amener des auditeurs en plus.
Ah oui, il faut du conflit.
Je me sens bien.
Pardon.
Hein, parce qu'on est trop gentils sur le talent, toujours là, on parle avec les gens, on parle aux gens avec respect. Quand on n'est pas d'accord, on dit pas, vous dites n'importe quoi, on dit non, pardon, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, c'est vraiment n'importe quoi, comment tu veux qu'on ramène du monde. Si on continue à respecter les gens, c'est n'importe quoi.
Il faut qu'on crée du conflit.
Alors, voilà, créons du conflit quand même, c'est marrant. Non, plus sérieusement les gars, en tant que nouveau mâle alpha, vous faites des choix de vie qui vont à contresens de ce qu'on attend de vous en tant qu'homme. Vous incarnez un nouveau chemin qu'on défriche, un chemin de désir hors normes. Vos positions en tant que nouveau mâle alpha remettent en cause les injonctions à la virilité, cette masculinité en carton et au rabais pour bonhomme fragile. Vous risquez de vous retrouver dans la position de devoir confronter votre vision de la masculinité avec celle des autres. Et souvent, les autres, ils vont vous régurgiter la même soupe pour vous dire que la norme, c'est la norme et qu'un homme doit être comme ci, comme ça. Alors, vous pouvez être tenté de vous lancer dans le débat avec d'autres. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce qu'après tout, quand on a un point de vue différent, c'est bien de pouvoir l'exprimer aussi. Donc, c'est une bonne idée. Je vous encourage à affirmer votre vision d'une masculinité qui ne dénigre pas, qui ne cherche pas à dominer et qui se renforce en dehors de la compétition. Mais vous aurez sûrement à faire face à deux pièges. Celui de devoir gérer la malhonnêteté intellectuelle de votre débatteur, surtout si c'est un viriliste, qui se sentira peut-être autorisé à décider si vous êtes un vrai homme ou non et qui s'attaquera à votre personne plutôt qu'à vos arguments. Le deuxième piège, eh bien, c'est de rentrer dans le débat sans éthique. Parce qu'en tant que nouveau mâle alpha, nous avons le souci d'incarner le respect de l'autre, même s'il n'est pas d'accord avec nous, voire même si ses propos sont complètement dénués de sens. Il faut rentrer dans un débat en prenant le risque, à un moment, d'avoir à changer d'avis si les arguments présentés par l'autre débatteur sont valides. Et c'est là, pour moi, une règle d'or du débat. On ne débat que si on est prêt à prendre le risque de changer d'avis et à reconnaître que l'autre a raison. Et pour être capable de changer d'avis, il est nécessaire de faire la différence entre une argumentation valide et une argumentation qui a l'air valide. Il faut être capable de sentir venir et d'esquiver les tentatives foireuses de pourrir le débat. Les pièges sont nombreux et il est indispensable d'avoir quelques armes rhétoriques pour organiser son autodéfense intellectuelle. Il y a plusieurs livres intéressants pour apprendre à reconnaître les pièges dans un débat. Le classique des classiques, c'est « L'art d'avoir toujours raison » d'Arthur Schopenhauer. Vous pouvez le trouver dans n'importe quelle librairie, et notamment chez notre libraire préféré. vous y trouverez les principaux pièges rhétoriques à éviter. Parce que connaître ces pièges que l'on appelle des sophismes, c'est aussi pour éviter d'y avoir recours lorsqu'on se retrouve en difficulté face à un débatteur malhonnête. Un nouveau mal-alpha reste droit dans son éthique, même face à quelqu'un qui abuse des sophismes. Et il y en a un qui est souvent utilisé dans les émissions de pseudo-débat, c'est ce que l'on appelle l'attaque ad hominem. Derrière ce nom qui fait genre que tu sais des trucs super intelligents, parce que c'est un mot en latin,
C'est classe,
tu caches une... Ouais, le latin, ça claque, hein, même si ça ne peut rien dire. ça fait genre que tu sais des trucs super intelligents, mais en fait, se cache une manœuvre de torsion du débat par ceux qui sont à court d'arguments valides. L'attaque ad hominem consiste à attaquer directement ton interlocuteur plutôt que ses arguments. On essaie de décrédibiliser l'autre pour décrédibiliser ses arguments par ricochet.
C'est de l'attaque de cours de récré.
Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est celui qui dit qui est, quoi.
Exactement, ouais.
L'attaque ad hominem la plus régulièrement utilisée, c'est l'étiquetage.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'on qualifie l'autre d'un terme qui est perçu comme péjoratif ou négatif dans la société. Et quand on commence à comprendre le mécanisme, bah, on le repère très, 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 très régulièrement. Je vais en prendre un qui est bien en cours de nos jours. Quelqu'un qui se voit étiqueté comme islamiste ou comme islamo-gauchiste, eh ben, va voir directement sa parole perdre en crédibilité, même si son argumentation et son raisonnement sont en tout point valides. Et on remarque aussi qu'une autre étiquette, celle de féministe, a le même effet, surtout si on précise que cette féministe hystérise le débat.
Ah ouais.
C'est une façon d'attaquer directement la personne et non pas ses idées pour la décrédibiliser. Et ça, ça évite d'avoir à répondre à un argument quand on ne sait pas y répondre. Alors, tu vois, cette histoire de féministe, hein, on retrouve des échanges où, par exemple, une femme tient la position de simplement demander à pouvoir être en sécurité dans l'espace public sans être harcelée ou agressée. Et puis là, on va lui répondre que oui, vous êtes une féministe hystérique. Et puis si tu rajoutes à cela un autre sophisme qu'on appelle l'exagération, bah, tu obtiens un argument du genre « à cause des féministes hystériques, bientôt on ne pourra plus draguer aucune femme dans la rue ». Et là, tu as le combo ad hominem et exagération et tu mets en PLS les autres. Donc il faut vraiment apprendre à reconnaître toutes ces malhonnêtetés intellectuelles. On va un peu explorer ça dans les semaines à venir. Ouais. Je vais vous donner comme ça quelques trucs pour apprendre, toujours dans le but de retrouver un moment du pouvoir et de l'autonomie dans votre façon de penser et dans votre façon aussi de pouvoir vous exprimer, de reconnaître aussi la malhonnêteté intellectuelle, parce que souvent on la retrouve énormément face à nous. Voilà mon gamin, c'est tout pour aujourd'hui et je trouve que c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal de savoir reconnaître cette malhonnêteté. J'espère que vous allez nous apprendre à savoir comment y répondre aussi plus tard.
Ouais, on va répondre des trucs vachement intelligents, mais pas du genre comme ce qu'on a entendu dans la chanson de Leïla et Lissou avant. Là.
Ah oui, c'était vulgaire, c'est vrai, pardon. À bientôt coach.
Allez, salut gamin.
À bientôt. Ensemble sur Calade. Allez, gamin, c'est comme ça qu'il m'appelle, le coach, ça m'a donné envie d'écouter les Oufris Maracas.
Tu me parlerais pas pour rien. Tu déposerais ton képi. Tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à après-demain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamin. 6 milliards de gamins.
Plus un, plus un. Plus un, plus un. Plus un, plus un.
Mais tu es un flic, hein. Triste représentant de la force publique. Tu savais d'où je venais, tu me demanderais si je vais bien, tu m'offrirais à déjeuner, tu me détacherais les mains, tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à l'été prochain, tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin, un gamin de gamin,
6 milliards de gamins, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un,
mais tu es un flic. Affolé de bandits, salope vendue, de représentants de la force publique. T'es né où je suis né, tu te demanderais si tout va bien. Autant le temps colonisé, à présent traité comme un chien. Tu continues à me voler, mon peuple et mon continent. Tu distribues à la volée les pognons. veux-tu sponsoriser les dictateurs? Tu vides mon sol de ses richesses pour quelques gisements prometteurs. Les peuples entiers dans la détresse, et toi tu es fuyeur. Soyez-en simple exécutant de la volonté de l'autorité publique. Et tu voudrais que je te tienne pour irresponsable, mais tu es le bras de l'idée. Et cette idée sans toi n'est qu'une idée. Et cette idée sans toi n'est qu'une idée. Un gamin de gamin, 6 milliards de gamins.
Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un.
Mais tu es un flic. Les bandits, salauds bandits, représentants de la force publique. Tu savais d'où je venais, tu ne ferais pas ton malin, ton autoritaire. Le gars qui me dit que je dois me taire. Tu déposerais ton mépris, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'au siècle prochain. Tu me laisserais vivre ici avec ma femme et mes gamins. Un gamin de gamins, 6 milliards de gamins.
Un gamin, c'était les Oufris Maracas sur Calade.
Ensemble sur Calade.
L'humeur littéraire du libraire.
Allez, c'est l'heure de retrouver notre libraire, c'est Bertrand Lamure. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ça va bien, ça se passe bien, la librairie démarrée?
Eh ben, j'ai envie de dire oui.
Tout va bien, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Eh ben alors... J'ai ouï dire, mais je ne sais pas, il va falloir me confirmer ça, que demain, ça y est, c'est fait, c'est la liberté. On est d'accord, Mathieu?
Il paraît, oui. Moi, il y a un chronomètre qui a été mis en marche.
Ah oui, carrément.
Pour avoir le compteur.
Alors, j'ai trois petits livres, trois petites envies, en fait. Le premier petit livre s'appellerait « L'écho des bistrots, petite confidence sur les cafés, pubs, tavernes et autres buvettes » de Pierrick Bourgaud. Est-ce que ça te parle?
Bah en tout cas, ça me donne envie, là, juste avec le titre, ça fait voyager déjà.
Alors, c'est une petite collection chez Transboréal qui s'appelle « La philosophie du voyage ». Alors, il y a aussi bien le voyage à l'autre bout du monde qu'en haut du Mont-Blanc. Et il y avait ce petit ovni, et je me suis dit, en ce J-1, je ne pouvais pas passer à côté de ce petit livre sur l'écho des bistrots. Ouais. Alors, je vais lire le début, parce que le début, donc, de ce petit livre est assez chouette, en ce jour. Paris, un soir d'août à la terrasse d'une brasserie des grands boulevards, après une journée tranquille. Je me réjouis de trouver une table libre idéalement située pour regarder les passants, pour laisser glisser le temps dans une ville en vacances, ne rien faire, juste être là. Le rendez-vous que j'attends n'est pas professionnel, je suis simplement venu rêver. Une femme m'a proposé de la retrouver à la sortie de son bureau, il est bon de l'attendre dans le bruissement des voix, l'agitation relative des serveurs. Chacun son rythme, son petit monde. Une clientèle gorgée de soleil prolonge ses congés, un couple de sexagénaires s'installe à la table voisine. La dame porte un bébé dans un sac kangourou. C'est notre petit-fils. On n'a pas l'habitude de venir ici, s'excuse-t-elle, en écartant les chaises. Mais on ne savait pas comment le calmer. Le petit homme a cessé de crier, il observe les clients assis, étend l'oreille pour écouter les langues étrangères. Il contemple le soleil couchant sur la terrasse, l'éclat lumineux des bières, les volutes bleues des cigarettes, les cheveux caressant les épaules bronzées des femmes. Il y a tant à voir et à entendre dans un bistrot. Donc je souhaite ce moment à Paris, à Villefranche ou ailleurs, à tous pour demain, mais on y voit déjà.
Il y a un peu d'impatience là qui s'est créée pendant cette lecture. Ça donnait très envie.
Voilà. Et alors, je continue avant de passer à autre chose sur les bistrots, parce que j'hésitais de commencer par ce que je viens de vous dire ou par cette petite poésie d'Olivia Ruiz. Donc, Olivia Ruiz chante, mais Olivia Ruiz écrit aussi. Hein. Ouais. Du coup, là, ces chansons, écriture, c'est « Je traîne des pieds ». C'était en 2005, « La femme du chocolat ». Donc, je vais juste faire une lecture. « Je traînais des pieds dans mon café, les vieux à la belote braillaient, papy, mamie, tonton André et tous ses pépés, à mes petits soins, à me pouponner. Ouais. La fumée du bœuf bourguignon, toute la famille tête dans le guidon, du temps où on pouvait faire les cons, les pensionnaires, les habitués, les gens de passage surtout l'été, joyeux bordel dans mon café. » On y est.
On y est au café du coin, celui du village, là. Ouais, effectivement. Avec les habitués et les gens de passage, on s'y voit bien.
Tout à fait, tout à fait. C'est, quelque part, c'est presque, entre guillemets, avec 3000 guillemets, on en a été privé pendant 6 mois. Ouais. Et en fait, bah, ça nous a permis de nous rendre compte que c'est des lieux essentiel.
Et on y revient, c'est vrai.
Alors, qui dit bistrot dit qu'on peut aussi, avant ou après, si on en a envie, et je sais qu'on en a tous envie, et bah, tu dis, et si on allait au théâtre?
Bah, pourquoi
et
pas.
Et si on se posait et on allait simplement partir loin, s'émerveiller devant des acteurs et autres. Alors, le théâtre de Villefranche est en travaux, c'est manque de bol, hein. Mais il y a quand même plein d'autres théâtres où on peut aller ailleurs, et ça va être aussi, pour ma part, très chouette. Alors, juste pareil, dans un petit texte qui s'appelle « Le goût du théâtre ». Alors, c'est une collection au Mercure de France, qui s'appelle la collection « Le Petit Mercure », et on a comme ça des dizaines de petits livres avec des extraits de romans, des extraits de, d'auteurs. Là, c'est le goût du théâtre, mais il peut y avoir aussi bien le goût de la paresse que le goût du vélo. Et j'ai trouvé un petit extrait de la première fois où Sarah Bernhardt va au théâtre. Donc Sarah Bernhardt, la grande comédienne légendaire française, hein, entre le 19e et le 20e. Donc c'est vraiment c'est quelqu'un qui est devenu un mythe quelque part dans le théâtre. Alors je vais juste citer des bribes de son premier aperçu du théâtre. On va la conduire au théâtre. Je ne sais quelle part mon oncle avait prise à ce burlesque projet, mais je doute qu'il fût de son goût. Néanmoins, j'étais content d'aller au théâtre. Je me sentais plus importante. Je m'étais levée enfant, et en quelques heures, les événements me rendaient jeune fille. Donc je passe sur quelques passages, et elle est au théâtre, et elle voit Britannicus. Quand le rideau se leva, lentement, je crus que j'allais m'évanouir. C'était en effet le rideau de ma vie qui se levait. Ces colonnes, on jouait Britannicus, seront mes palais. Ces frises d'air seront mes ciels. Et ces planches devaient fléchir sous mon poids frêle. Alors, elle a eu Britannicus, et puis après, il y a eu une deuxième pièce, pardon, qui est Amphitryon. Le rideau s'était levé sur la seconde pièce, Amphitryon. Je fis un effort pour écouter afin de plaire à mon institutrice si douce, si conciliante. Je ne me souviens plus que d'une chose, c'est que je trouvais Alcmène si malheureuse que j'éclatais en sanglots bruyants et que la salle très amusée regardait dans notre loge. Ma mère irritée m'emmena avec mademoiselle Brabander, laissant mon parrain furieux grommelant qu'on la fiche au couvent et qu'elle y reste, bon Dieu de bois, quelle idiote que cet enfant. Voilà les premiers, la première expérience de la grande Sarah Bernhardt au théâtre. Et on se dit qu'elle avait bien de la chance, ouais. Et que surtout, voilà, ça devait être assez extraordinaire de voir cette grande tragédienne sur scène.
T'as souvenir, ouais.
Et puis, donc, vous êtes allé au bistrot, au théâtre, et pour moi, il y a quand même quelque chose encore d'essentiel, et ben, c'est le cinéma.
Bien sûr.
Donc évidemment, nous, on a la chance d'avoir deux ciné à Villefranche et le très bon, entre autres, 400 coups, hein, avec déjà une belle programmation à partir de demain, hein, ouais. Donc tous au cinéma. Et je suis tombé sur un petit texte un petit écrit chez Rivage Poche. Ça s'appelle Une certaine lenteur. Et c'est un livre d'entretien entre... c'est Arnaud Desplechin, pardon, et Catherine Deneuve. Alors, je lis juste la quatrième de couverture, où il dit ceci, Arnaud Desplechin, grand réalisateur, grand scénariste, et il dit ceci à propos de la grande Catherine Deneuve. Rebelle de naissance, toujours joyeusement subversive par son art, Catherine Deneuve est la figure exquise pour toutes celles et tous ceux qui désirent commencer leur vie sans avoir jamais à courber la nuque. Une leçon de liberté, de fantaisie, de choix souverain, de fidélité à l'anarchisme de l'enfance. Et Catherine Deneuve, alors moi ça reste une icône, j'ai détesté Catherine Deneuve à une époque. Et avec le temps, j'ai trouvé que cette femme était quand même assez extraordinaire. Et même, j'ai eu la chance de la croiser une fois dans la rue. Alors, elle est très bourgeoise, hein, Catherine Deneuve. Elle habite le 6e à Paris, boulevard Saint-Germain, etc. Et en fait, elle n'est pas très grande. Elle a quelques kilos en trop. Mais derrière ça, c'est une... il y a quelque chose, il y a une sorte de beauté hypnotique, même quand on la croise et qu'elle va acheter ses tomates, et on se dit, ça doit être ça, une star, en fait.
Ouais, c'est
ça,
une grande dame, quand même, ouais.
Voilà, quelqu'un qu'on a vu et revu dans des films, et surtout des films qu'on va aller voir au cinéma, et pas sur des plateformes dont j'ai même déjà oublié le nom. et de se dire, quand on a tellement rêvé sur des acteurs ou des actrices, et quand on les croise au coin d'une rue, on se dit, donc c'est ça une star. Et là, on n'ose même pas lui parler, évidemment, parce qu'on va raconter trois conneries, etc. Et je fais le lien, désolé, je parle de choses que j'ai, de personnes que j'ai croisées, et ça avait été pareil avec Isabelle Huppert.
Ouais.
Que pareil, c'est quelqu'un que j'ai profondément détesté dans des films, mais qui reste quand même une... c'est aussi pour ça on les déteste, parce que c'est des acteurs ou des actrices.
Ah, on déteste le personnage.
Mais oui, voilà. Ah. Mais du coup, Et Isabelle Huppert, je l'avais croisée, alors, ça fait très chic, je l'avais croisée à Rome, Piazza Navona. Et alors là, tout d'un coup, on voit arriver une femme ultra chic. Mais en même temps décontracté, on s'est dit, attends, merde, on la connaît, Isabelle Huppert. Et du coup, pour l'anecdote, mon ami qui était à côté avait un petit sac, et Isabelle Huppert nous adresse la parole, oh, comme il est joli votre petit sac, où l'avez-vous acheté? Elle nous avait bien douté qu'on devait être français, tellement on la regardait. Et alors, manque de bol, effectivement, ce sac avait été acheté sur un marché d'un marché local, etc. Et alors là, je crois qu'elle a été très déçue, parce qu'elle s'attendait à certainement la boutique Gucci du coin.
Non,
mais voilà, je me dis, c'est aussi ça,
jamais.
Les stars, on leur pardonne tout, etc. Et donc, je serais ravi dès demain d'aller voir un film. Et pour ma part, ça sera ADN.
La magie du cinéma.
Déjà retenu.
Un beau projet. Vous nous avez bien fait voyager, Bertrand, entre le bistrot, le théâtre et le cinéma. Merci beaucoup pour cette balade.
Oui, et puis courage à tous pour demain.
Courage, t'arrêtes la guerre. Très bonne journée, à bientôt.
Bonne journée, à bientôt.
Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.